Ce soir, nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, des versets 14 à 45. Et dans les Bibles bleues, le texte se trouve aux pages 1115-1116. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme et le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent ?» Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout.
Dans la vie, la question de l'autorité se pose régulièrement. Si un jour vous êtes au volant et qu'un automobiliste lambda, comme on dit, vous fait signe de vous arrêter et puis vous demande de voir vos papiers, vous allez lui demander pour qui il se prend. Si par contre c'est une voiture de police qui fait la même chose, qui vous demande de vous ranger, ben voilà, vous vous exécuterez immédiatement. Parce que celui qui vous demande d'obtempérer a l'autorité pour cela. La question d'autorité se pose parfois pour nos grands responsables politiques également. On l'a vu avec un petit épisode au début de la présidence de la République actuelle, par exemple, lorsque le nouveau président, à tort ou à raison, je ne me prononcerai certainement pas, a recadré la hiérarchie militaire française pour leur dire « Je suis votre patron ». Je pensais qu'on avait une petite... Ah, ben, elle est là, ouais, c'est parfait. Et puis, pour ceux qui sont parents de jeunes enfants, la question de l'autorité, elle se pose tout le temps, tous les jours. Est-ce que mon enfant va prendre au sérieux ce que je lui dis, ce que je lui demande ? Eh bien, dans notre texte, alors que nous assistons au début du ministère de Jésus dans sa région d'origine, la région de Galilée, la question centrale qui se pose, c'est la question de l'autorité, justement. Le mot est utilisé à deux reprises, verset 22, verset 27, mais au-delà de ces deux mentions explicites, la question qui sous-tend tout ce texte reste celle que Paul Bourdois a introduite dans son message il y a deux semaines. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Et dans un sens, c'est la question que nous pose tout l'évangile de Marc et à laquelle répond progressivement tout l'évangile de Marc. Et on va voir dans ce texte que le sentiment qui s'impose parmi les auditeurs et les témoins de Jésus est celui-ci, il a une autorité. Il a une autorité incomparable. Et donc nous allons nous poser cette question, comment l'autorité de Jésus se manifeste-t-elle ? Et je vous propose trois éléments de réponse d'après le texte. D'abord, Jésus appelle avec autorité. Ensuite, Jésus enseigne avec autorité. Et enfin, Jésus restaure avec autorité. D'abord donc, Jésus appelle avec autorité. Je suis souvent frappé lorsque je parle avec des amis qui travaillent plutôt dans le monde de l'entreprise et qui sont en recherche d'emploi, combien parfois ils doivent passer un nombre incroyable d'entretiens avec la même boîte avant d'obtenir un poste. 4, 5, 6 entretiens, parfois plus, avec le même employeur et parfois pour s'entendre dire au bout de tout ce long processus que la candidature n'a pas été retenue. On ne peut pas dire que le processus de recrutement de Jésus, qu'on voit au début du texte, soit aussi complexe. On voit que quand Jésus appelle ses futurs disciples, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas longtemps à étudier leur CV. Verset 16-17, « Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et quelle est la réaction ? Des intéressés, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et on voit à peu près la même chose juste après, au verset 19 et 20. Lorsque Jésus voit les fils de Zébédée dans une autre barque, verset 20, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et on comprend bien dans le contexte qu'il ne s'agit pas de s'absenter une demi-heure pour aller voir ce que Jésus veut leur montrer. Il y a quelque chose de définitif dans leur réponse à l'appel. Ils sont appelés à changer de vie. Et changer de vie, c'est précisément ce que Jésus appelle chacun à faire. On l'a entendu encore tout à l'heure avec le témoignage et le baptême d'Ahmed. L'appel adressé à ces pêcheurs au bord du lac de Galilée est un appel plein d'autorité, on le voit, plein d'urgence également. C'est maintenant et c'est pas plus tard. Et à vrai dire, cette urgence, on l'entend déjà dans le message que proclame Jésus, qu'on voit au verset 15, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » On y reviendra bien sûr sur ce message. Mais Marc nous montre que les futurs disciples ont saisi l'urgence et l'autorité de l'appel. Ils laissent tout derrière eux, leur filet, leur père, les employés, pour suivre Jésus. Face à l'appel de Jésus, on voit qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Cet appel prime sur tout le reste. Et forcément, face à un appel aussi radical, laisse tout, change de vie, suis-moi, la question qui surgit, c'est, mais qui est Jésus pour appeler ainsi des hommes et des femmes à changer de vie et à le suivre ? Alors Marc, en fait, il a déjà répondu à cette question. Ses convictions à lui, le narrateur, sont claires. Chapitre 1, verset 1, tout début de l'évangile de Marc, il nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Donc la couleur est annoncée clairement. Et on commence à comprendre que si les auditeurs de Jésus répondent à son appel de façon aussi radicale, en laissant tout derrière eux, ce n'est pas en premier lieu parce que Jésus est un grand prophète qui a un charisme exceptionnel en tant que tel, ce n'est pas la raison première en tout cas, mais c'est parce que l'appel que Jésus leur lance, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de notre Seigneur, qui a toute autorité sur nous, et qui ne se laissera pas caser dans un recoin de notre vie, mais qui demande tout. C'est ça que ça veut dire Seigneur, justement. Et cet appel de Jésus, il reste d'actualité aujourd'hui en France, au XXIe siècle et ailleurs, bien sûr. Alors pour nous, c'est-à-dire ceux parmi nous qui avons déjà choisi de suivre Jésus, qui l'avons manifesté comme Ahmed, en confessant notre foi, en passant par les eaux du baptême, eh bien nous devons nous demander si nous persévérons et si nous continuons à suivre cet appel. C'est un appel radical que Jésus nous lance. Quand je parle d'un appel radical, je ne veux pas dire qu'il s'agit pour chacun d'entre nous d'aller fonder un orphelinat au Bhoutan. Alors c'est peut-être le projet de Jésus pour certains, certainement. Mais la radicalité de l'appel, pour la majorité des disciples de Jésus, il me semble qu'elle se vit non pas par des choix extérieurement spectaculaires, mais plutôt par une réorientation de la vie, pour vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour entrer dans les projets de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est les projets de Dieu pour nous? Question qu'on se pose peut-être souvent. Alors il y en a qu'on découvrira certainement au fur et à mesure de la vie, mais il y en a beaucoup qui nous sont révélés dans l'Écriture. Et en fait, les projets essentiels de Jésus pour nous, nous sont révélés dans la Bible. Grandir en foi, en amour, en bienveillance, en esprit de service, en humilité. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire, rechercher le bien de ceux qui nous font du mal. La fidélité dans la prière, dans l'attention portée à l'autre, dans le service, même quand ça fait un peu mal, même quand ça ne nous arrange pas. Dans la patience, même quand on a toutes les raisons de perdre patience. C'est aussi accepter la volonté et l'autorité de Dieu dans des domaines sur lesquels nous voulons régner en maître. C'est peut-être le cas pour notre vie professionnelle. C'est peut-être le cas pour notre sexualité. C'est peut-être le cas pour nos objectifs de vie, d'un point de vue général. Entrer dans les projets de Dieu, c'est faire les choix moins visibles, moins reconnus, mais qui comptent aux yeux du Seigneur. Réorienter sa vie radicalement pour entrer dans les projets de Dieu plutôt que de vivre pour nos propres projets. Maintenant, pour ceux qui sont parmi nous ce soir et qui n'ont peut-être pas encore choisi de suivre Jésus-Christ, mais qui entendent ce soir son appel, eh bien, notre prière, c'est que vous l'entendiez comme ses disciples ont entendu au bord du lac. Pas comme un point de vue intéressant, pas comme une sollicitation parmi d'autres, mais comme l'appel de Dieu que vous ne pouvez pas ignorer. Et si vous aimeriez en savoir plus sur cet appel de Jésus-Christ, je peux que vous encourager, comme l'a fait Paul tout à l'heure, eh bien, pourquoi ne pas essayer par exemple la rencontre découverte ce mardi, 19h pour un repas, 19h30 début de l'étude. Elle est là justement pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Jésus appelle avec autorité, et la suite du texte montre qu'il enseigne avec autorité. Alors je sais qu'il y a des enseignants dans l'auditoire. Question intéressante est de savoir qu'est-ce qui fait l'autorité d'un enseignant? Bonne question. Est-ce que c'est le fait d'avoir une grosse voix? Est-ce que c'est en étant très exigeant dans la notation, en faisant peur aux élèves? On est au contraire en faisant preuve de trésor de patience envers eux. Alors on sait qu'il y a des élèves particulièrement difficiles, voire inatteignables parfois, mais d'un point de vue général, il me semble, j'espère ne pas trop me tromper en disant cela, que l'autorité d'un ou d'une enseignante est liée au fait déjà de maîtriser son sujet, de savoir de quoi on parle, et puis de savoir communiquer l'intérêt de ce dont on parle, d'arriver à transmettre l'importance pour ceux qui écoutent. Ce texte nous présente Jésus comme un enseignant comme aucun autre. Verset 22, on était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Encore une fois, l'idée ici n'est pas en premier lieu, me semble-t-il, que Jésus avait plus de charisme naturel que les autres. C'est possible, c'est même probable, mais ce n'est pas l'idée essentielle ici. L'essentiel est que, comme pour son appel, son enseignement s'impose de lui-même. Alors certains le rejetteront, beaucoup ont rejeté l'enseignement de Jésus, on le voit dans l'évangile de Marc, beaucoup le rejettent encore aujourd'hui. Mais personne qui est réellement exposé à cet enseignement ne peut y rester indifférent. C'est un enseignement qui va droit au cœur. Alors Marc commence par résumer ce message de Jésus au verset 14 et 15. Verset 14, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Alors bien sûr, c'est un résumé. Ici, Jésus n'a pas dit que ces deux phrases, c'est un résumé qui nous est donné de ce ministère, début de ministère de Jésus, en Galilée notamment, cette proclamation du royaume de Dieu. Alors que dit-il dans ce résumé qui nous est donné? D'abord, le moment est arrivé. Quel moment? Eh bien, celui que les prophètes d'Israël avaient annoncé pendant des siècles. Le moment de la venue d'un roi qui viendrait établir un règne éternel et qui viendrait réconcilier définitivement Dieu avec son peuple. Ce royaume de Dieu, il est proche, dit Jésus. Il y a une imminence dans son propos et il y a intérêt à s'y préparer. Dieu va tout changer, il va manifester sa puissance d'une manière nouvelle. Encore faut-il se soumettre à son autorité. Ne pas continuer à vivre comme si Dieu n'était pas là, comme nous le faisons souvent. Et d'où cette exhortation puissante, changez d'attitude, et peut-être ça a plus d'effet dans la traduction traditionnelle, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Bien, la suite de l'évangile de Marc va nous apporter une réponse approfondie à cette question, et c'est pourquoi c'est important de revenir, et de ne pas juste venir dimanche 28 janvier, mais de continuer à venir pour entendre la suite de l'évangile de Marc. Même si dimanche prochain, exceptionnellement, on aura un invité, sera sur un autre texte. Mais ensuite, on reprendra et je vous invite à continuer à suivre cet évangile qui va nous dévoiler précisément quelle est cette bonne nouvelle. Mais alors que Jésus commence son ministère, il est important de constater déjà que c'est précisément une bonne nouvelle qu'il apporte. Quelque chose que chacun est appelé à saisir. À l'époque de Jésus, le judaïsme devenait de plus en plus porté sur de longs débats sur l'application pratique de la loi de Moïse. Est-ce qu'on avait le droit de faire ceci, de ne pas faire cela, dans telle ou telle situation? Si par exemple, et c'est un exemple auquel Jésus fait allusion, pour faire allusion au débat de son temps, si on a un animal qui tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de travailler, entre guillemets, pour aller tirer de là l'animal? Certains disaient oui, d'autres disaient non. Sans vouloir réduire le judaïsme de l'époque à cela, ce serait simpliste, c'était le genre de débat qui dominait. Alors quand Jésus vient proclamer l'imminence du royaume de Dieu et le besoin pour chacun de changer de vie en urgence, eh bien c'était nouveau et c'était radical. Et on voit que Jésus apporte un enseignement qui va droit au cœur de l'homme, qui vient rencontrer nos besoins les plus profonds, qui vient nous poser les questions les plus essentielles pour chacun d'entre nous. Comment être pardonné par exemple? Et comment pardonner? Pourquoi est-ce que je vis? Comment connaître celui qui m'a créé? Pouvoir l'appeler Père. Et à vrai dire, quand on voit le nombre de débats sans fin, souvent quand même stériles et futiles qui animent et qui agitent notre société aujourd'hui, bien il faut reconnaître que notre monde a tout autant besoin de cet enseignement qui nous ramène à ce qui est vraiment essentiel. Mais l'autorité de Jésus va plus loin encore. Versets 21 à 27, on voit que, alors que Jésus enseigne dans la synagogue de Capernaum, eh bien, on voit que cet enseignement est directement associé dans le texte à un exorcisme, comme on dit, la libération par Jésus d'un homme en proie, verset 23, à un esprit impur. Je reviendrai dans quelques minutes sur ce qu'il faut comprendre par cet incident. Mais ce qui est frappant, c'est que les auditeurs de Jésus associent au verset 27 l'enseignement de Jésus, plein d'autorité, avec cette délivrance de l'oppression démoniaque. L'enseignement de Jésus est efficace, il agit. Et face à cet enseignement, le mal est débusqué et chassé, dénoncé. Alors c'est vrai que l'exemple qu'on voit ici est particulièrement saisissant, cette libération spectaculaire en présence même de Jésus. Mais il ne faudrait pas penser que l'enseignement de Jésus aujourd'hui, transmis aujourd'hui, serait moins libérateur et moins transformateur. Est-ce que la bonne nouvelle qui change des vies, qui chasse le mal, est au cœur de ce que nous croyons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Un commentateur de la Bible souligne que la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle, foncièrement, c'est d'abord la proclamation de la victoire de Dieu sur le chaos et la mort, et deuxièmement, l'appel à répondre à cette proclamation de victoire. Alors si notre évangile est devenu, et ça peut être le cas pour moi aussi, pour nous aussi, si notre évangile est devenu convenu et confortable, s'il commence à ressembler plutôt à de petites leçons de spiritualité et de morale, alors nous avons perdu de vue le message de Jésus. Et nous devons nous poser cette question également. Est-ce que nous exposons tout ce qu'il y a dans notre vie, dans notre quotidien, de corrompu, de vain, de mal, à l'enseignement de Jésus? Est-ce que nous mettons ces choses à la lumière de cet enseignement de Jésus qui est plein d'autorité et qui chasse le mal pour faire le ménage dans nos vies? Chaque jour, nous sommes exposés à de multiples enseignements, entre guillemets, de multiples paroles. Toutes ne sont pas mauvaises. Mais il n'y en a qu'une qui change la vie. Il n'y en a qu'une qui nous ramène à Dieu. Jésus appelle avec autorité. Il enseigne avec autorité. Enfin, dans la continuité de cela, Jésus restaure avec autorité. Dans ses célèbres contes pour enfants, les Chroniques de Narnia, l'auteur britannique C.S. Lewis décrit un royaume, le royaume de Narnia, dominé par des puissances mauvaises et soumis à un hiver permanent. Et il précise un hiver permanent sans Noël. Donc l'hiver sans Noël, vous imaginez. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Mais le roi légitime de ce pays, le lion Aslan, s'apprête à revenir. Et au début, c'est une rumeur qui bruisse, qui se chuchote de maison en maison. Et brusquement, on commence à voir par endroits la neige fondre, des bourgeons apparaître dans les arbres. Ici ou là, une fleur qui éclot discrètement. La venue du roi attendu commence déjà à saboter discrètement la puissance du mal. Bien dans ce texte, comme partout dans les évangiles, on voit que la présence de Jésus et le message qu'il apporte ont des effets immédiats sur son environnement. Le malheur, la souffrance, qui prennent la forme ici de maladie, là d'oppression spirituelle, sont directement menacés par la bonne nouvelle. Jésus annonce un nouveau monde à venir, le royaume de Dieu est proche, mais il apporte déjà avec lui les prémices de ce nouveau monde. On vient de parler de l'exorcisme dans la synagogue, et j'y reviens. Un peu plus loin, au verset 30, c'est la belle-mère de Simon, Pierre, qui est malade. Et puis au verset 32, Marc nous dit, après le coucher du soleil, ça nous donne un petit indice qu'il était témoin oculaire de la scène, après le coucher du soleil, on lui apporte tous les malades et les démoniaques. C'est intéressant de voir que Marc distingue bien les deux cas de figure. Il nous dit que Jésus guérit beaucoup de personnes, verset 34, et qu'il chassa beaucoup de démons par ailleurs. Mais dans les deux cas, c'est une restauration à laquelle on assiste, comme un vent de la faveur de Dieu qui vient souffler sur les souffrances des hommes. Alors un petit mot, on y vient sur ce qu'on appelle les exorcismes, la libération d'un esprit impur, le fait qu'un homme soit libéré d'un esprit impur. Alors aujourd'hui, en Occident, nous avons un peu du mal, on ne sait pas trop quoi faire de tels textes, souvent. C'est notre première réaction, en tout cas, je crois. Et on peut se demander, alors, est-ce qu'il s'agit en fait de superstitions de l'époque? Ou bien est-ce que c'est une façon archaïque de parler de pathologie psychiatrique? Ou bien, en fait, c'est une réalité, mais simplement, aujourd'hui, on n'ouvre pas les yeux sur cette réalité. On notera que dans bien des pays du monde, et sans doute la majorité, ce genre de texte ne surprend personne. La présence de l'occulte et des formes mystérieuses que prend parfois le mal font partie, sinon du quotidien, du moins de l'expérience vécue. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à cerner ces phénomènes, c'est peut-être qu'avec notre esprit moderne, nous cherchons à tout identifier précisément. Et du coup, quand les choses ne rentrent pas dans nos catégories toutes faites, on a du mal, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a peut-être aussi le fait que quand on pense à la libération, à la délivrance d'un esprit impur, on a peut-être plutôt que la pensée biblique, des scènes de films d'horreur ou de ce genre de choses à l'esprit. Mais l'oppression démoniaque est sans doute une réalité plus large et complexe que ce que nous pensons. C'est ce qui se passe lorsque le mal a complètement pris le dessus sur une personne. Il n'y a plus le filtre de la conscience. Le mal a libre cours. Les instincts de destruction, les pensées et les paroles impures ont complètement aliéné la personne. Ce n'est plus elle qui parle. L'adversaire a pris le dessus. C'est ce qu'on voit dans ce texte, dans l'échange qui a lieu entre le démon et Jésus, sur lequel malheureusement je ne peux pas développer maintenant. Et peut-être que nous n'avons pas besoin d'avoir toujours des catégories précises pour décrire ces réalités. Précisément, enfin justement, le mal, il est mystérieux. Et il n'est pas facile toujours à décrire. Mais l'important est de voir que la parole de Jésus chasse le mal et libère les hommes de son emprise. L'annonce du royaume de Dieu comporte déjà en germe la puissance de ce royaume. Même chose pour la guérison des malades. Alors la Bible est claire sur le fait que dans ce monde présent, dans le monde déchu que nous connaissons, la souffrance, le mal, la maladie sont encore présents et font encore des ravages. Et les disciples de Jésus ne sont pas épargnés, bien sûr, par cela. Mais alors que Jésus vient proclamer le royaume de Dieu, lui qui est, on va le découvrir, le roi de ce royaume qui, à en croire les prophètes de l'Ancien Testament, balayera un jour la mort et la souffrance, essuiera les larmes de tous les visages et établira définitivement la vie, la paix et la joie, eh bien, par la présence de Jésus et par son enseignement, c'est comme si, je rappelle l'image de tout à l'heure, des bourgeons de cette puissance sont déjà visibles. Là où Jésus va, il apporte avec lui cette guérison qui vient avec le royaume de Dieu. Sa parole chasse le mal, restaure la santé, rétablit l'homme dans sa dignité. Et l'exemple de la guérison du lépreux qui clôt notre texte est frappant. La lèpre, ce n'était pas seulement une terrible maladie physique, mais c'est quelque chose qui occasionnait aussi une terrible souffrance sociale. Parce que les lépreux étaient exclus de la société et du culte. Ils étaient considérés rituellement impurs. Ils n'avaient pas le droit de se mêler aux autres du tout. Et d'ailleurs, c'est révélateur la demande poignante du lépreux au verset 40. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la volonté et la parole de Jésus suffisent à rendre réel cet espoir. Verset 41, « Je le veux, sois pur. » Il est frappant de voir que Jésus ne fait pas appel à la guérison de Dieu comme quelque chose d'extérieur, dire « Je vais prier Dieu pour qu'il te guérisse », mais il dit « Je le veux, sois pur. » Et l'homme est guéri, purifié, restauré, est capable de retourner dans sa communauté. Jésus restaure avec autorité. C'était vrai pour les lépreux, pour les malades, pour les démoniaques. C'est vrai aussi pour nous tous qui venons à lui chargés de souffrances, de relations brisées, de déceptions, mais aussi de fautes, d'impuretés. Jésus restaure avec autorité. Il ne s'agit pas de dire que si nous sommes, devenons ou sommes disciples de Jésus, nous connaîtrons une vie sans souffrance, ceux qui sont les disciples de Jésus savent que ce n'est pas le cas et la Bible nous montre bien que ce n'est pas le cas. Un jour, les souffrances ne seront plus là, mais ce jour est encore à venir. Mais il s'agit plutôt de comprendre que la bonne nouvelle de Jésus, elle est, comme l'écrira plus tard l'apôtre Paul, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que nous soyons chrétiens ou non ce soir, venons à Jésus, entendons son appel plein d'autorité, répondons à son enseignement et laissons-nous restaurer par la bonne nouvelle. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces quelques scènes du ministère de Jésus qui nous montrent la puissance, ta puissance de guérison, de restauration, ton autorité à l'œuvre pour remettre sur pied des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être restaurés. Merci parce que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, un Dieu qui nous remet sur pied. Aide-nous à venir à toi avec tout ce qui nous trouble, avec toutes nos souffrances, avec nos fautes également. Aide-nous à exposer tout cela à ta parole, à laisser cette parole faire la lumière sur tout cela. Aide-nous à grandir pour que nous puissions mieux te ressembler. Seigneur, tu connais parfaitement chacun qui est dans cette salle ce soir. Je te prie de toucher le cœur de chacun avec ta parole. Au nom de Jésus.